Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 27 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
Ce matin, nous allons parler de crédits hypothécaires qui atteignent chez nous des taux qu'ils n'avaient plus atteints depuis 10 ans. Nous parlerons aussi d'une réforme européenne qui porte sur le marché des médicaments. Qu'en disent les professionnels du secteur? C'est ce que vous découvrirez en écoutant ce brief. Je suis Sam Chim Courrier et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info dès 7h.
Les taux hypothécaires franchissent le cap des 4,5% et c'est la moyenne des banques belges pour un taux fixe à 20 ans, selon guideepargne.be, un site qui compile les taux proposés par les différentes institutions financières belges. Bon, il s'agit des taux officiels et non ceux négociés par le client, qui sont souvent plus bas pour diverses raisons, mais bon, cela faisait près de 10 ans qu'un crédit hypothécaire n'avait pas coûté si cher. Si on compare ce taux à celui proposé par les banques en janvier l'année dernière, soit juste avant la remontée des taux, eh ben ça fait mal. Ou plutôt, l'impact sur les mensualités est douloureux. Aujourd'hui, un emprunt de 300 000 euros sur 20 ans coûte désormais plus de 1 880 euros par mois, alors que quand le taux d'affiche moyen était de 1,75%, on remboursait un peu plus de 1 480 euros par mois en janvier 2022. Le différentiel d'intérêt s'élève ainsi à 400 euros par mois. Quant à savoir si nous sommes proches du pic de la hausse des taux, rien n'est moins sûr. D'après Philippe Ledan, économiste chez ING, la réunion de la Banque Centrale Européenne du 4 mai sera cruciale. Et cette information, c'est l'occasion de vous présenter le troisième épisode de Tuto Immo, le podcast de l'Écho qui accompagne les futurs propriétaires sur le marché de l'immobilier. Justement, on y pose la question qui peut transformer votre rêve en réalité, comment financer son achat? Vaste question et vaste sujet, pour les aborder, Marc Delforge, le responsable de crédit de la BNP Paribas Fortis Bank, nous explique notamment comment choisir entre taux fixe et taux variable.
Le taux fixe est la sécurité absolue. C'est un taux qui ne bougera pas pendant toute la durée du crédit. On sait parfaitement ce qu'on rembourse et on sait quel taux et quel intérêt on va payer. C'est le prix de la sécurité. Après, le taux variable, c'est un peu l'inverse. Généralement, on profite d'un taux plus bas, mais on assume le fait de prendre le risque que le taux remonte, sachant qu'il y a une limitation de toute façon imposée par la loi qui fait que le taux ne peut pas faire plus que doubler.
Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qui vous reste à faire. Abonnez-vous et écoutez la série Tuto Immo sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast et retrouvez les articles qui y sont liés sur l'écho.be. Qui pour succéder à Sarah Schlitz au poste de secrétaire d'État à l'égalité des chances, des genres et à la diversité? Plusieurs noms circulent. Au sein des colons, on parle de la coprésidente Raja Maouan, de la députée bruxelloise Margot Doré ou encore de la députée fédérale Marie-Colline Leroy. Est également citée Afida Bachir, ex-responsable de Vie féminine et conseillère au cabinet de la secrétaire d'État. Sarah Schlitz est tombée à la suite d'une affaire de mauvaise gouvernance liée à l'utilisation de logos personnalisés par des associations subsidiées. Ainsi, la Vivaldi enregistre sa 5e démission, après celle de Sophie Wilmès, suite à la maladie de son mari, de Sami Mahdi, après son élection à la tête du parti CDNV, de Meriem Kitir, à cause de problèmes de santé et de gestion de son cabinet, et enfin d'Eva de Blecker, en raison d'une affaire de projet de budget ne reflétant pas une décision du gouvernement. La Commission européenne veut offrir plus de marge de manœuvre aux pays membres de l'Union afin qu'ils puissent s'écarter des règles budgétaires et ainsi mieux investir dans les politiques qu'ils jugent prioritaires. Pour ce faire, les services d'Ursula von der Leyen ont proposé hier une révision du pacte de stabilité et de croissance adopté il y a 26 ans. Le but n'est pas d'accélérer le surendettement des 27 partenaires, bien au contraire, les nouvelles règles viseront à réduire la dette tout en encourageant investissement et réformes. Parmi les mesures envisagées, la plus radicale est sans doute celle qui impose aux 27 membres de l'Union d'établir chacun un plan structurel budgétaire à 4 ans. Des efforts devront être faits. Il s'agit tout d'abord de renforcer la durabilité de la dette publique, explique le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. Les règles du pacte de stabilité et de croissance ont été suspendues il y a 3 ans pendant la crise sanitaire afin de permettre aux gouvernements de soutenir leurs économies, mais elles devront être réactivées fin 2023, les dernières crises ayant poussé l'endettement à un niveau alarmant. Et toujours à propos des règles, dans les 27 pays de l'Union, la Commission européenne a présenté hier son projet de réforme du marché des médicaments. Parmi les mesures annoncées, l'accélération de la procédure de commercialisation ramenée de 400 à 180 jours et la réduction de la période d'exclusivité d'un produit pharmaceutique de 10 à 8 ans, sauf s'il répond à un besoin non satisfait ou qu'il est vendu dans tous les pays de l'Union. Mais il ne s'agit pas d'exceptions suffisantes pour les labos, pas du tout satisfaits par ces changements. Bonjour Olivier Gosset.
Bonjour Sun.
Vous êtes notre spécialiste des biotechnologies et du secteur pharmaceutique. Que dit le secteur de ce projet de réforme aujourd'hui ?
Alors, le secteur pharmaceutique belge est plutôt inquiet de ces propositions. L'industrie belge du médicament, d'abord, c'est 42 000 emplois directs et c'est un secteur qui connaît un développement constant depuis des années. Ils appellent le gouvernement belge à s'opposer à certaines des propositions, dont celles que vous avez évoquées. Donc, pharma.be, qui est la coupole du secteur pharmaceutique en Belgique, se déclare ainsi profondément préoccupé par le fait que les propositions de la Commission européenne portent atteinte aux incitants existants, y compris les droits de propriété intellectuelle, qui, selon pharma.be, joue actuellement un rôle vital dans la promotion de l'innovation et du progrès scientifique.
Pourtant, la législation autour du marché des médicaments n'a pas été revue depuis une vingtaine d'années, mais les arguments du secteur vont plus loin.
Exactement, pharma.be estime que sans incitation à l'innovation, les nombreux autres médicaments ou vaccins dont nous disposons aujourd'hui n'existeraient tout simplement pas. C'est pourquoi un système de propriété intellectuelle solide reste une condition sine qua non pour l'avenir, fait valoir la coupole du secteur.
Et pour la Commission européenne, le but de cette réforme est triple. C'est rendre les médicaments plus abordables, prévenir les pénuries et stimuler le développement de nouveaux antibiotiques. Une start-up belge a un fil de recycler la fast fashion. Resortex a déjà su attirer de grands noms de la mode comme H&M, Bershka ou encore Decathlon avec ses fils dissolvables par la chaleur. Ainsi, avec un four spécial, elle sépare les différentes parties d'un vêtement et permet son recyclage. Même le Premier ministre Alexander De Croo a pu assister au miracle. La start-up d'origine gantoise a pu lever très récemment plus de 2 millions d'euros, dont près de la moitié provient de Finance and Invest Brussels. Pierre Hermand, vous êtes le CEO de ce holding régional. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'investir dans ce projet ?
Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est parfaitement aligné avec la stratégie de Finance and Invest Bruxelles et donc celle de nos actionnaires privés et publics, donc celle aussi du gouvernement bruxellois. C'est un projet qui va créer de la valeur avec un S à valeur. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois de la rentabilité et en même temps de l'impact, en ce sens qu'on va permettre à un secteur qui est un des plus grands pollueurs au monde de pouvoir réduire son impact et donc de pouvoir réduire ses externalités négatives.
Bon, il faut dire que la mode a besoin de projets durables comme celui de Resortex qui devrait permettre de traiter jusqu'à 10 tonnes de vêtements par jour l'année prochaine.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce projet, on sait que dans le secteur, il n'y a que 1% des produits qui sont recyclés. Ici, en changeant simplement une bobine dans la production et donc en pensant éco-conception d'un vêtement, on va pouvoir faire en sorte qu'à une température bien précise, uniquement ce fil disparaisse et ça permet de désassembler. On gagne énormément de temps et on peut alors recycler et donc avoir une grosse empreinte en diminuant de 50% l'impact CO2 du secteur textile. Et donc dire que chez nous, à partir de Bruxelles, on peut commencer à redonner une dynamique sur le futur du textile en apprenant à penser économie circulaire, en créant une très belle dynamique créatrice de valeur, ben ça effectivement c'est une fierté bruxelloise.
Les géants de la Big Tech vont-ils être sauvés par l'intelligence artificielle ? Il faut dire qu'ils ont été pas mal bousculés ces derniers temps. Oui, si on en croit les marchés, l'IA pourrait leur porter secours. La preuve, hier, à l'ouverture de Wall Street, l'action Microsoft a bondi de 7% à la suite de la publication de résultats la veille. Bonjour, Xander Vlassenbroek.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Investir à l'écho. Alors, ChatGPT a-t-elle ouvert les vannes, l'engouement autour de cette intelligence artificielle ? Pourrait-il assurer l'avenir de la Big Tech ?
C'est vrai que depuis le début de l'année, on voit quand même que certaines entreprises se démarquent, notamment Microsoft et Google, sur les marchés. C'est clairement leur hausse qui permet un rebond de Wall Street. Et en fait, outre leurs résultats, qui sont au final peut-être meilleurs qu'attendus dans la dernière publication, c'est surtout l'engouement autour de l'intelligence artificielle qui dope leurs cours de bourse. C'est notamment le cas de Microsoft. Lors de la présentation des résultats, les responsables de l'entreprise ont mis en avant ce développement de l'intelligence artificielle dans le géant de la tech. Ils ont mentionné le terme près de 50 fois. Ils expliquent que ça va révolutionner le monde du travail. Ils expliquent comment c'est maintenant intégré au moteur de recherche Bing, qui était vraiment à la traîne par rapport à Google. Donc on voit que c'est clairement un sujet qui est devenu très important pour la Big Tech. Et on voit aussi que Microsoft a pris de l'avance par rapport à Google en la matière, même si le CEO de Google mentionne aussi l'importance de l'intelligence artificielle. On voit que ça reste mineur par rapport à son activité de son moteur de recherche classique Google. Donc,
après Alphabet, Microsoft, c'est au tour de Meta Platform d'enchanter le marché en publiant ses résultats trimestriels. Tant le chiffre d'affaires que les perspectives de Meta Platforms pour le trimestre en cours ont battu les attentes de Wall Street grâce à la résilience de la publicité en ligne. Wall Street semblait ravi, si on se fie aux échanges d'après-bourse, l'action Meta bondissait d'environ 10%. De son côté, Samsung annonce ses bénéfices trimestriels les plus bas depuis 14 ans. Ces derniers ont plongé de plus de 86% au premier trimestre. Le ralentissement économique mondial a décidément porté un coup aux ventes de puces, qui représentent habituellement la moitié des bénéfices du géant sud-coréen de la tech. Et pour vous, les investisseurs en bourse, rendez-vous sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast ou l'éco.be pour retrouver le 32e épisode de Tracker. Dès aujourd'hui, vous pouvez entendre Aude qui a décidé de reprendre ses finances en main en investissant un peu partout dans l'immobilier, les ETF, les startups, les cryptos, le crowdfunding, vraiment un peu partout. Elle nous décrit un parcours intense mais pas forcément intenable, interrogée par Salim Nesba.
Je me dis finalement, on se fait souvent une montagne de choses qui n'en sont pas vraiment. Tout ne s'est pas passé sans embûches, mais finalement, bah voilà, il y a eu des challenges mais que j'ai su relever, tout en gardant quand même une vie de famille, avec donc au départ ce CDI à plein temps, et puis en même temps une reconversion professionnelle que j'ai menée à bien. En regardant en arrière, je me dis, on est quand même capable de faire des sacrées choses, en fait, hein, quand on ose et qu'on y va.
J'ai cette croyance au fond de moi que tout est possible, affirme Aude, que vous pouvez donc retrouver dans cet épisode de Tracker. Cela fait 3 ans qu'elle investit avec l'aide de spécialistes et de coachs. Bon, ben vous avez quelques bonnes recommandations de podcasts pour vos trajets. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et mettez-nous plein d'étoiles et des commentaires sur les applis d'écoute habituelles si vous aimez. Merci d'avoir écouté le Brief. L'épisode d'aujourd'hui a été préparé par Guillaume Cordeau. À demain pour un nouveau Brief. Je vous souhaite une excellente journée.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.